Bienvenue au Polysécur épisode PME, je suis avec Dominique. Comment vas-tu?
Bonjour Nicolas Loïc, écoute, une belle journée. On a la chance d'enregistrer dehors dans le soleil de
Montréal.
De Montréal, effectivement, sur le Vieux-Port.
Oui, tout à fait. On a déjà abordé à plusieurs reprises toute l'importance du rôle de CISO, l'effort de minimiser ou d'empêcher le plus que possible d'avoir des incidents, notamment de prévenir au lieu de guérir. Mais malheureusement, on ne peut pas s'en sortir. Il arrive tout le temps qu'on va devenir malade, on va avoir un incident. C'est malheureusement l'effet de la vie. Le CISO est un rôle important là-dedans et quand même coordonnateur de ces éléments-là. C'est un événement malheureux et ça devient complexe parce qu'il y a un écosystème qui s'installe quand un incident se déroule. Fait que je vais te laisser commencer avec ça.
Écoute, je pense que c'est vraiment important. On se rappelle, on a déjà échangé sur le rôle du CISO de limiter les accidents qu'il pourrait avoir en traitant les vulnérabilités, en sensibilisation, etc. Enfin, énormément de petites solutions qui sont accessibles aux PME pour se protéger, de limiter les impacts en cas d'accident parce que malheureusement, comme tu le soulignes, il y a une sorte d'asymétrie avec les méchants. C'est-à-dire que nous, quand on est du côté de la défense, eh bien, il y a énormément de points, il y a plusieurs points à corriger et ça prend une erreur, un accident, quelque chose qu'on évite, et là, on a une asymétrie. Et donc, dire qu'une fois qu'on a fait tous nos devoirs de limiter les accidents et limiter les impacts, on peut dormir complètement tranquille et fermer les yeux, ben, on peut avoir ces notions d'accident qui peuvent arriver. Et puis, et donc là, dans le rôle du CISO d'accompagner ça, d'accompagner aussi la présentation aux équipes de direction, il y a la gestion de ce type d'incident. Et là, quand un incident arrive, effectivement, il y a le stress qui commence à avoir. On va avoir des pertes de production. On va avoir les regards qui vont se tourner sur les équipes de sécurité dès lors qu'on va comprendre que c'est un problème de sécurité, que ce soit avec un message de ransomware, que ce soit avec une revendication d'un groupe, avec une parution dans un site du dark web. Alors oui, je fais référence au très bon épisode sur le dark web, le moyen d'y aller et pas le lieu en lui-même. Le stress arrive, on a des pertes d'informations, on a peut-être le stress de payer parce qu'il y a des... Qu'est-ce qui va se passer si ça dure plus d'une semaine, plus de deux semaines? Nos employés, est-ce qu'on va être capable de les payer? Qu'est-ce qu'on va dire à nos clients? Donc on a tout un stress. La loi, on parle de la loi 25, et ben oui, effectivement, on va peut-être encore avoir des directives qui vont arriver avec les lois sur les infrastructures essentielles qui vont encore rajouter des obligations et une petite couche de stress. Toute la presse qui peut aussi arriver, on en listait tantôt, on échangeait sur ces points-là, et oui, la presse peut être un stress supplémentaire, la presse qui vient frapper à la porte, qui dit « qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous la vérité ». Et là, on a, moi, ce que j'appelle, c'est pas un écosystème. Moi, je trouve qu'on a une tendance, des fois, à voir des vautours qui viennent tourner autour de l'accident, autour de la proie. Parce qu'effectivement, il faut répondre à stress. Tu vois, je pense qu'il y a cette notion-là. Là, il y a une réalité des coûts. Parce que quand on a un problème de plomberie à 2h du matin et qu'il faut appeler le plombier, Nicolas Olic, je suis désolé, tu vas l'appeler. Et puis, oui. Tu vas être prêt à payer le déplacement de nuit.
Ben oui, on va le payer, c'est sûr, parce qu'on a une urgence à régler, quelque chose de désagréable qui se passe dans notre demeure, dans ceci, pour l'analogie, donc dans notre entreprise. C'est sûr qu'on va être pressé à le régler le plus rapidement possible et on va payer justement les frais de camion et les frais de charge de nuit, les frais et ainsi de suite, c'est évident.
Et c'est des frais... C'est des frais qui sont légitimes. C'est des frais standards qu'on s'attend à payer parce qu'on fait une intervention spéciale. On a besoin d'expertise parce qu'un incident, on ne peut pas prendre le premier passant dans la rue. Quand vous allez aux urgences, vous allez voir des médecins qui sont ultra spécialisés, généralistes et ultra spécialisés pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Donc, effectivement, il y a tout un coup qui arrive. Il va falloir provisionner aussi des bras supplémentaires parce que quand on va parler de correction, quand les systèmes sont à terre, il y a de l'action qui est à faire. Donc, il va y avoir des bras supplémentaires. Donc là, tout ça, ce sont des coûts qui s'accumulent. Il y a des coûts qui sont légitimes et il y a parfois quelques personnes qui se tentent et qui abusent. Et on a une notion de vautour parce que sous prétexte de vouloir aider, on est capable de pouvoir placer des services qui sont pour les raisons que j'ai évoquées, qui sont relativement payantes, puisque c'est des interventions d'experts de nuit. Hein, quand on parle de nuit ou de fin de semaine, c'est x1,5, x2, puis quand on a plusieurs ressources. Et tout ça, il y a aussi les obligations légales. On se parlait de la loi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut déclarer? Est-ce qu'il ne faut pas déclarer? J'appelle mon cyberassureur, j'appelle pas mon assureur. Comment ça s'organise? Donc, il y a vraiment ça. Malheureusement, quand on est à terre, on ressemble un peu à une victime un peu appétissante parce que on est dans le stress, on est démuni.
On est vulnérable.
Et on est beaucoup plus vulnérable que ça. Hein, quand on est tombé par terre, on est vulnérable. C'est là où on a besoin de se faire accompagner de la meilleure façon possible pour pas en souffrir encore plus, puis d'avoir le sentiment d'être doublement fautif. La faute d'avoir eu un incident, un peu, on a toujours un peu honte. Hein. Quand on a un incident, on n'est jamais fier. Hein. Moi, je peux dire que quand le jour où tu as un accident de voiture, tu ne vas pas compter ça à ta blonde en disant « check ça, j'ai frappé une autre auto hein. ». Il y a quand même une petite gêne là-dessus. Et là, il y a une double peine qui est en plus, j'ai été obligé de payer excessivement cher pour me remettre à flot. Donc, pour me remettre en place.
Oui, une surprime justement de te ramener de par les surcharges légitimes, mais en même temps, puis là, tu amènes la notion de vautour ou de gens qui vont exagérer sur la nécessité de recorriger parce que, puis pour l'avoir vécu vraiment, vrai, quand tu appelles le plombier de nuit, il vient pas corriger. Il vient régler le problème. Il vient régler la fuite et dans le périmètre de la fuite. Lui ne vient pas faire d'autre chose. Puis de toute façon, lui, dans son travail, il ne veut pas faire d'autre chose que plus que qu'est-ce que. Et là, en plus, on l'a dérangé la nuit. Là. Il n'est pas de très de bonne humeur, en plus, c'est le plombier. Là.
C'est clair qu'on est toujours dans une position vulnérable. La première action qui est à faire quand on a des méchants à l'intérieur de notre périmètre, c'est de s'assurer qu'ils ne soient plus là pour pouvoir commencer les travaux de reconstruction. Parce que sinon, on va jouer un petit jeu de. De chat et la souris avec le méchant qui est à l'intérieur des murs. Et si on le détecte, ou si la conscience qui se fait détecter, il peut y avoir des actions très, très dommageables. Souvent, l'expression, c'est qu'on a une seule action à prendre si le méchant est là, c'est la bonne. Et la bonne action qui est à prendre, c'est l'exfiltrer du périmètre, c'est le sortir du périmètre pour pouvoir reconstruire.
Le plus rapidement possible d'ailleurs, parce qu'une fois que le méchant a détecté, qu'on l'a détecté, lui va prendre tous les moyens à sa disposition pour faire le plus de dommages possible. Et justement, donc, dans un contexte de ransomware, donc d'aller chercher le plus de possibilités de venir extraire de l'argent de l'entreprise. Donc, il faut s'assurer, être calme pour pas qu'il nous détecte. Mais en même temps, ça prend des talents de spécialistes pour faire ce genre de choses-là. Puis, c'est une course contre la montre. La différence d'intervention de une heure sur une intervention, peut avoir un impact majeur sur l'étendue du problème. Puis comme pour un problème, le problème est vraiment le meilleur exemple parce que si on laisse couler plus longtemps, mais les dommages sont plus grands, donc on a plus de problèmes, on a plus d'éléments. Puis,
c'est un réflexe d'urgentiste. C'est le réflexe aux urgences, souvent, ou les pompiers. Il y a des réflexes qui sont à faire et c'est le premier réflexe qui peut faire toute la différence sur le suraccident, qui est le pire qui puisse arriver, hein, l'accident sur l'accident, parce que là, les dommages sont considérables, ou sauver la vie ou sauver l'élément. Et on arrive aussi dans des contextes des fois un peu difficiles dans la gestion d'incidents parce qu'on a oublié de documenter, par exemple. Et forcément, quand on fait intervenir des équipes qui n'ont pas de documentation, où est le plan d'évacuation? Où sont les serveurs critiques? Où sont les éléments? Est-ce qu'il y a plusieurs connexions Internet? Parce que souvent, le réflexe, c'est de dire on coupe la connexion Internet, mais si vous avez une dizaine de connexions Internet, il ne faut pas en oublier une, sinon vous êtes encore à X. Hein. J'ai dit, on n'a qu'un seul... une seule action à faire, donc il faut faire la bonne. Donc, tout ce travail de documentation, s'il n'a pas été fait, typiquement, ça va être fait au gros prix par l'équipe qui va intervenir, qui va agir. Et encore une fois, dans le stress, c'est obligatoire, il va falloir le faire. Donc, c'est le compteur est parti, il va tourner, puis il y a des choses qui sont à faire malheureusement qui auraient pu des fois être anticipées. Et dans une fois qu'on a trouvé, on va sortir des murs le méchant, on va s'assurer qu'il est en dehors pour pouvoir travailler le travail de reconstruction. On a souvent on a un gros mot qui s'appelle le forensic. On va voir les NCIS de ce monde qui vont essayer de trouver par où c'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. C'est une bonne pratique. Les cadres normatifs vont le suggérer, vont le recommander. Par contre, ce n'est pas forcément adaptable à tout le monde parce qu'un forensic qui peut durer 5 minutes, puis on a trouvé, OK, on a trouvé. Ben, c'était Jean-Pierre à la comptabilité qui a cliqué sur le mail de phishing. Puis c'est là où c'est parti. Puis en plus, Jean-Pierre, il a eu le réflexe d'alerter l'équipe de sécurité pour dire « j'ai fait une bêtise ». Puis on a réussi à circonscrire l'incident relativement rapidement. Ou au contraire, on a un peu laissé aller, on n'a pas fait attention, ça faisait plusieurs jours que c'était là. Et puis là, on va lancer dans le forensique. Et là, c'est un forensique qui peut durer 5 minutes, comme un forensique qui peut coûter 1, 2, 3 heures, 3 jours, 5 jours, avec des coûts démesurés.
Oui, puis il faut avoir une intention, parce qu'on ne lance pas le forensique pour le lancer, on lance un forensique dans un objectif défini. Et ça aussi, dans l'urgence, parfois, les entreprises peuvent être mal conseillées sur l'étendue du forensique à effectuer, parce que, un, c'est très dispendieux. Deux, il faut que ça se demeure dans un objectif utile, puis l'utilité n'est peut-être pas toujours comprise par les entreprises, parce que c'est difficile de savoir à quel point ou à quel moment on doit arrêter justement dans un forensique de 5 minutes ou on a besoin de faire un forensique de 5 jours pour aller chercher ce qu'on a vraiment besoin.
Avec un forensique, hein, si on veut le faire dans les règles de l'art, ben ça prend du matériel spécifique, donc c'est pas... On ne fait pas une copie sur une clé USB puis on a récupéré les informations. Il faut utiliser, il y a des technologies, des uncase, etc. Des vraiment des équipements qui, type militaire ou police qui vont permettre d'avoir une validité de la preuve. Mais si vous faites ça sur l'équipement ou si vous le faites alors que ce n'est pas proportionné, ça peut engendrer des frais relativement importants. C'est une, qu'on ne se méprise pas, c'est une bonne pratique de penser au forensic. Mais dire qu'il faut à tout prix un forensic de 5 jours pour tous les incidents, c'est questionnable. Et ça, c'est important de le savoir. Parce qu'encore une fois, dans le stress, le conseil qui va être donné dans le stress, vous allez prendre le stress. Encore une fois, vous êtes aux urgences, le médecin, il vous dit, il faut faire ça. Vous n'allez pas vous astiner avec le médecin pour lui dire, es-tu sûr ? Vous allez suivre le conseil. Et il y a une relation de confiance avec les médecins. Quand on fait dans de la business, ben, des fois, il y a des notions business. C'est le temps que c'est là où il faut faire attention. Et dans le forensique, ça peut aider à trouver le patient zéro, ça peut aider à trouver plein de choses. Ça peut... Il y a des choses qui sont intéressantes pour accélérer, mais s'il n'y a aucune garantie, surtout si vous avez une hygiène informatique qui n'a pas été très sur la coche ou en tout cas sur lequel vous n'avez pas pris soin. Si vous aviez 2000 vulnérabilités dans votre parc parce que vous le saviez, parce que vous avez roulé n'importe quel type de scanner de vulnérabilité ou vous n'avez pas corrigé le rapport de pentest, vous n'allez pas faire un forensic est un petit peu superflu parce qu'il y a eu 2000 occasions parce qu'il y avait 2000 vulnérabilités dans le forensic ou parce qu'il y avait des vulnérabilités béantes ou pas de traces ou pas de logs parce que vous n'aviez pas activé les logs, c'était dans votre rapport. Et donc, le forensic va être limité ou va vous donner du bruit, du faux positif, donner naissance à la recherche, vous inquiéter encore plus. Et puis, ben, encore une fois, le compteur continue à tourner. Et ça, il faut faire attention sur ça.
Énormément, puis c'est encore là, pour l'avoir vécu dans plusieurs incidents, puis la nécessité du forensic a été présente dans plusieurs incidents dans lesquels j'ai eu à participer, puis justement on a fait affaire avec des équipes externes, et c'est de déterminer la portée de ces analyses-là est très complexe, on disait justement sur l'urgence, c'est difficile d'évaluer, puis des fois c'est peut-être même pas pertinent, des fois c'est plus facile de tout passer au napalm, tu parles de ton poste à 2000 vulnérabilités. C'est plus rapide de le passer au napalm, oui, tout court, que de juste essayer de chercher pourquoi il s'est passé, parce que dans l'absolu, et puis c'est ça aussi pour que les entreprises se rappellent, leur mission, c'est pas de faire le forensic, la mission, c'est de revenir en affaires le plus rapidement possible. Et donc, des fois, le forensic est une étape qui n'est pas nécessairement pertinente ou qui n'amènera pas les réponses nécessaires ou qui n'amènera pas, ou de toute façon, les corrections sont déjà énoncées dans un rapport de pentest qui a été fait. Fait qu'on n'ira pas se refaire valider une deuxième fois
que
c'est la même chose. c'est un travail un peu futile.
C'est là où il faut avoir une bonne gestion et pas se laisser emporter parce que ça peut être aussi intéressant. On a tous des expériences plus ou moins généralement malheureuses parce qu'un incident, je le souhaite à personne. Et c'est jamais le fun pour personne d'être dans un incident. Parce que c'est émotionnellement et humainement très, très difficile à vivre avec des remises en question, etc. Donc, je le souhaite à personne. Mais dans les choix, il faut garder quand même de la lucidité et pas aussi se faire plaisir en se disant « j'ai jamais eu de forensic de ma vie, c'est l'occasion d'en faire un comme du monde type NCIS avec, on va zoomer avec des trucs incroyables, de la reconstruction du disque dur puis des modèles films de science-fiction. » Donc, ce n'est clairement pas le lieu. Et ça me fait flipper aussi sur un autre sujet que C'est pas parce que, bah oui, il y avait des vulnérabilités. OK, le but du jeu de l'incident, c'est de repartir dans une condition optimale de fonctionnement. C'est pas, on fait une réparation pour repartir. Ce n'est pas une occasion de faire des améliorations le jour de l'incident. Pendant l'incident, c'est délicat de faire des améliorations parce que vous êtes en train de reconstruire. Imaginez, vous êtes en train de déménager, puis en même temps, vous commencez à changer tous vos mobiliers. Pendant que les meubles sont dans le camion, vous êtes en train de changer les meubles qui sont dans le camion pour pouvoir les mettre de l'autre côté. Ou quand vous reconstruisez, vous êtes en train de rechanger les paradigmes pour reconstruire. Ben, tout changement, toute grosse amélioration apporte un peu de friction. C'est pour ça qu'on fait de la gestion du changement, c'est pour ça qu'on fait des câbles, c'est pour ça qu'on fait énormément de vulgarisation. Si on le fait pendant l'incident, vous allez augmenter les risques d'erreur, les risques de suraccident, et puis le risque que ça ne fonctionne pas. Et là, en tant que si vous êtes le CISO et que vous expliquez à votre board que l'accident a coûté beaucoup plus cher que prévu et qu'il y a eu de l'amélioration qui ne fonctionne pas, ça va être très difficilement justifiable.
Ouais, je vais avoir ce CISO-là va avoir énormément chaud quand il va avoir expliqué ces choix-là. Puis de toute façon, puis on reprend toujours l'incident de plomberie, refoulement d'égout. On n'est pas là pour refaire la maison pendant qu'on répare l'incident de refoulement. On s'arrange pour enlever ce qui est bouché, pour revenir à l'état que ça fonctionne. Et après, s'il y a lieu, on peut effectivement poser des actions d'amélioration, mais pas pendant.
En fait, dans le processus de gestion d'incident, on n'est pas descendu dans ces briques-là, mais dans le processus de gestion d'incident, il y a le retour d'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Lessons learned. Et dans cette partie-là, c'est là on va dire « Ok, il a manqué ça » et c'est là on va être capable de placer les projets avec un suivi qui vont aider à réduire le risque. Si ça ne réduit pas le risque, c'est que c'est un projet qui ne devrait pas exister. Et donc, avec ce Lessons and Learn, ça va permettre de capitaliser pour justifier le projet, justifier les coûts qu'on va mettre dedans, les efforts qu'on va mettre dedans parce qu'on sait l'objectif qu'on va avoir. Si vous avez décidé l'objectif pendant l'incident, dans la période de stress, c'est probablement pas le bon moment où vous l'avez fait.
Non, puis humainement, notre capacité de réfléchir est énormément diminuée. Puis il n'y a pas de super-héros. Personne n'est capable de prendre des décisions avec une réflexion approfondie parce que notre spectre de vision est énormément réduit. Puis c'est comme ça parce qu'on est en stress. Et quand on est en stress, bien, c'est comment le corps fonctionne. Et justement, il est là pour aller régler, sauver la vie. Et dans ce cas-ci, on n'est pas là dans un contexte où je vais comment changer, me re-questionner sur le fait que j'aurais pas dû me promener proche du tigre. Quand le tigre me court après, là, il est un peu. Je vais juste courir.
Ben oui.
Puis l'objectif est là. Donc, on ne prend pas des réflexions intenses. On prend juste se sauver du tigre. Et regretter nos choix de vie.
C'est pas le temps de se prendre un abonnement au gym. C'est trop tard. OK? Voilà. Si on veut aller dans l'analogie, c'est pas le temps de se prendre un abonnement au gym, même si ça pourrait aider à courir plus vite pour le prochain tigre. Non, on va déjà traiter l'incident en cours. Et parfois, j'ai dit tout à l'heure, les vautours, c'est pas très gentil pour des gens qui ont c'est le métier de faire ça, mais on est un peu des fois victime consentante. C'est-à-dire que quand on est dans le stress et qu'on voit une opportunité, on dit tiens, écoute, ce serait bien d'avoir tel type de solution technologique parce que c'est bien dans un cas idéal. On essaye de justifier soi-même.
Une forme d'enthousiasme de la part des personnes. Puis oui, je l'ai vu, puis c'est pas, il n'y a justement pas de malice ou d'arrière-pensée, effectivement, dans ce sens-là. Juste à posteriori, on s'en rend compte, puis là, il est trop tard pour tout le monde. Puis tout le monde vit avec une forme de regret de cette situation-là et juste peut-être d'avoir une certaine forme de gêne, une petite gêne de pas annoncer des choses trop grandioses comme personne qui répond à l'incident ou en forensic. Là.
Et c'est bien de le séquencer et c'est le rôle de la personne qui gère l'incident ou en tout cas de la personne qui vient aider de dire ce serait une bonne idée, c'est quelque chose qui est important, mais pas aujourd'hui. Pas quand tu as les deux pieds dans la crotte, hein, excusez du langage, mais pas parce que tu as les deux pieds là-dedans que tu vas commencer à rêver à autre chose là, parce que sinon tu ne sortiras pas de là où tu es, tu vas te recréer des problématiques. Et c'est là où il faut, en tant que professionnel, faire attention pour pas survendre et puis te faire passer toutes ces frustrations parce que personne n'a voulu écouter que tu voulais. Comment ça, tu n'as pas mis de CIEM en place? Comment ça, tu n'as pas fait ça, de segmentation, blabla? Oui, c'est OK, c'est pas le temps de passer ces frustrations à une victime dans un incident, c'est de se dire, OK, comment on fait pour le construire correctement, pour ne pas tomber dans le piège. Il y a souvent des... aussi dans des cas d'incidents, on a les gens qui jump et puis qui débarquent avec leurs solutions technologiques. Et ça, dans une main, ok, ça veut dire qu'on a des gens qui vont être capables d'être beaucoup plus fluides avec leurs solutions technologiques. C'est sûr, si on vient faire débarquer des gens qui viennent d'Allemagne et qui parlent qu'allemand avec des gens qui ne parlent que français, ça va être très compliqué. Ils vont peut-être faire passer tout en allemand et puis ça va aider plus vite. Okay, donc, il peut y avoir une certaine logique, mais quand on a déjà des solutions qui sont déjà en place, et quand je parle de PME, les solutions, faire l'acquisition d'une solution, c'était un vrai choix. Ça a été une validation dans le conseil d'administration, ça a été une validation sur les budgets, c'est un vrai choix. Donc, si on a fait un vrai choix d'une solution technologique, on ne peut pas la tasser sur le côté sous prétexte d'incident. Ou alors, sauf si on a choisi la solution pas chère, l'EDR qui est utilisée.
Ben, si on a fait un mauvais choix, ce qui peut arriver par ça. Ailleurs, c'est pas exclu, mais en général, j'ose espérer que la plupart des gens font un bon choix. Puis là ça amène puis un autre axe important. Puis quand là, tu parles de quelqu'un qui vient répondre à l'incident, généralement, on va essayer de, puis ça, c'est un conseil pour les PME, c'est d'avoir prénégocié une entente avec un fournisseur dans le cas d'incident et de celui-ci justement s'assurer, se prémunir que celui-ci est déjà habile avec nos technologies. Justement, pour s'éviter une surprise, parce que là on est dans un cas, on appelle une urgence, on ne sait pas qui va répondre, on a à peu près n'importe qui, on est dans une situation qui nous est défavorable parce qu'on ne s'est pas préparé. Puis l'objectif, on en a parlé dans d'autres épisodes, il faut se préparer et notamment se préparer, ça fait partie, prénégocier des ententes avec des fournisseurs de réponse à instant, prénégocier, avoir des assurances, avoir une panoplie de choses qui nous permettent de voir à ne pas être en panique quand le feu est pris et de juste descendre les éléments et donc d'avoir un fournisseur qui connaît nos outils technologiques et qui ne viendra pas vouloir tout bousiller. Il va nous donner des conseils, il est peut-être un peu enthousiaste, mais il ne voudra pas changer notre technologie. Puis ça amène un risque supplémentaire. Même s'il maîtrise ses outils, ça l'amène à un risque.
Oui, mais parce que statistiquement, une fois qu'un produit a été changé et remis, l'ancien va être complètement tassé puis vous allez être obligé de vivre avec un nouveau produit. Et puis, si vous n'avez pas la compétence, il va falloir acquérir la compétence, il va falloir acquérir d'autres éléments, d'autres réflexes. Donc, un nouveau learning curve en plus de la récupération de la perte de production qui s'est passée pendant le temps de l'incident. Et je fais du pouce sur ce que tu dis. Il y a, oui, des ententes avec des firmes qui pourraient intervenir en cas d'incident. Ça peut être aussi important d'avoir des gens que vous avez à l'interne qui vont être des porte-parole, qui vont être des défenseurs de l'entreprise, qui ne seront pas soumis au même stress que vous, mais qu'eux vont faire valoir vos points, vont faire valoir le « nous avons la solution, s'il vous plaît, vous utilisez notre solution, sinon vous n'êtes pas le bon fournisseur pour nous, arrêtez de me vendre ça, c'est un super projet, mais pas maintenant parce que je veux focaliser là-dessus, tirer la plug sur le forensic pour dire ok ». En fait, d'avoir quelqu'un qui va se battre pour vous, vous représenter, normalement on a le bridge coach hein, qui permet de faire ce genre de choses, mais il manque cette partie des fois un peu technologique pour pas se faire complètement prendre dans une spirale technologique avec la dernière saveur du moment. La dernière saveur du moment sera toujours meilleure que la saveur d'hier. Hein. C'est comme les autos. Okay, la voiture qui est sortie cette année, elle est bien meilleure que celle qui était l'année dernière. Pourtant, elle va me conduire pareil de Montréal à Québec. Okay, mais elle sera meilleure. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut vous défendre dans ces éléments pour pas avoir des changements. Puis on parlait de briques essentielles tout à l'heure. On se dit... Et oui, ça paraît niaiseux d'avoir la documentation, mais si vous n'avez pas votre... où sont vos serveurs, quels sont vos points d'entrée, quels sont vos éléments essentiels, quelles sont vos versions, quelles sont vos faiblesses, des fois vulnérabilités, si vous ne les avez pas, elles vont être obligées de se découvrir pendant l'incident. Et puis, elles vont se découvrir au tarif des gens qui viennent vous aider et qui ne sont pas les moins chers du marché parce qu'ils viennent dans une notion d'incident. Essaye d'appeler un pompier pour enlever ton chat d'en haut d'un arbre. Quand tu vas recevoir la bille, tu vas comprendre que tu aurais peut-être mieux fait d'attendre un petit peu que le petit chaton il descende tout seul. OK? Pourtant, ils t'ont aidé, hein? Mais parce que c'était pas de vie ou de mort. Pareil, tu fais venir la police tous les jours chez vous parce que ton alarme, elle part n'importe comment. La troisième fois, tu vas payer parce que tu les as dérangés pour rien. Puis, c'est pas gratuit, là. Hein? OK? C'est pas un petit. On n'est pas à 10 piastres là. Okay? Donc, c'est normal que l'incident coûte cher. Donc, il faut être prêt pour que ce soit le plus fluide possible, pour que ce soit vous ne soyez pas mal pris à avoir à faire des opérations qui sont normalement standards, à un coût raisonnable ou un coût d'entreprise, pour les payer en urgence. Ça a l'air un peu bête ce que je dis là, mais c'est la notion de la prévention versus la notion de la gestion pendant l'incident. On pouvait prendre dans la santé, c'est mieux de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à faire notre sport, que de vivre avec une maladie chronique grave qui s'est développée. Ça va beaucoup plus. Ah. Et là, on fait frapper encore une fois la notion de l'humain à l'intérieur. Nous sommes des humains, on aime bien les raccourcis, on aime bien profiter de la vie, on aime bien ne pas penser aux problèmes. Prenez un peu de temps de faire ça parce que ça peut sauver du temps dans la gestion d'incidents, et ça va vous donner une position de force pour que les vautours se transforment en albatros qui vont vous aider à passer le reste, ou en un oiseau, j'arrive pas à trouver quel est l'oiseau bienveillant qui va pouvoir vous aider à traverser ça, là, ou en phénix qui va vous permettre de traverser ça, et pas que ce soit vécu comme une double peine, comme je disais au début, l'incident d'avoir honte et d'avoir payé un gros prix pour s'en être sorti.
Effectivement, c'est très intéressant tout ça. Je pense que ça termine justement le regard à poser sur ça. Et si je peux juste résumer, et ce que tu as fait un peu à la fin aussi, c'est préparez-vous. On est toujours dans la préparation, que ce soit qu'on se prépare, qu'on mette des mesures de prévention pour pas que ça arrive, autant bien, quand on se prépare aussi de se préparer au pire. Et les différentes choses dans notre vie aussi, on se prépare à ce genre de choses-là. Les assurances qu'on a sont de cette nature parce qu'on se prépare au pire, même si on espère que celui-ci ne nous arrive jamais, mais si cette situation nous arrive, on est d'autant plus heureux d'avoir ces préparations-là, ces éléments-là en main pour nous sortir d'une situation qui pourrait être beaucoup plus périlleuse autrement.
Oui, mais c'est toujours intéressant de pouvoir partager, s'informer, écouter, oui. C'est toujours se sécuriser.
Oui.
J'espère que ça fait écho à certaines personnes. Encore une fois, c'est jamais le fun de l'incident. C'est comment est-ce qu'on est capable d'avoir cette bouffée de respiration pour ne pas tomber dans des pièges, parce qu'on tombe dans le c'est jamais la faute du vautour. Là, il y a quand même un petit peu des deux dans les deux sens. Donc, c'est comment être assez fort pour peut-être les différentes pièces que vous avez pu entendre qui peuvent faire écho pour mieux se sentir en cas d'accident. Ce que je vous souhaite pas encore une fois.
Hein. Non, tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention, très intéressant, et on se dit à la prochaine.
Merci. Vivement la prochaine au soleil.